Catalyse sur Fréquence Mistral, l'émission qui vous fait découvrir votre région d'un point de vue musical. Sur 99.3, un jeudi sur deux avec Valentin et Thibault.
Et donc après cette minute de respiration, bienvenue sur Catalyse. Nous sommes jeudi 24 novembre et aujourd'hui nous recevons Lola qui est chanteuse et qui va nous présenter son projet. Bonjour Lola.
Bonjour.
Est-ce que tu es contente d'être parmi nous ce soir ?
Je suis très contente, on a bien respiré, je suis très calme.
Bon, eh bien tant mieux. Du coup, tu vas nous parler de ton projet qui s'appelle La Traversée, qui est un album.
Oui.
C'est ça, qui sortira à peu près ?
En février 2023.
Ok, très bien. Eh bien, on aura l'occasion de décortiquer un petit peu tout ça, tant le côté artistique que le côté un peu plus spirituel de l'album, pour avoir écouté quelques bribes. Du coup... Pour te présenter, Thibaut nous a trouvé une chanson qui est...
Une chanson, oui, mais pas seulement, parce que moi je voulais en profiter pour accueillir Lola, puisque c'est quelque chose, la recevoir pour cette première émission, pour moi c'est beaucoup de joie, donc voilà, c'était pour le partager avec vous.
Merci.
Et avec les auditeurs aussi. Lola, de son nom de scène... Lola qui doute, j'ai eu la chance, je trouve, de faire sa connaissance musicalement en dehors de Omakaï, en fait. Donc, pour moi, ça a été... En fait, j'ai entendu la chanson qu'elle avait mise sur les réseaux sociaux qui s'appelle « Vas-y, pleure », où elle me disait que c'était l'ébauche d'une chanson déchirée. Et ça m'a beaucoup parlé, en fait. Ça m'a beaucoup touché. Et à partir de ce moment-là, comme j'invite des fois des artistes à faire des petits concerts à la maison, j'en ai profité pour inviter Lola. Alors, une première fois, elle s'est cassée la main. Mais la deuxième fois, ça a eu lieu. Elle est venue avec Léon, son accordéoniste. Et c'était, voilà, c'était vraiment un moment que j'ai accueilli pleinement. Parce que vraiment... Toutes ces chansons m'ont touché, et puis elle est revenue une seconde fois, très récemment, pour justement peut-être aussi un peu tester le fait d'être toute seule sur la scène, puisque à chaque fois, moi je t'ai beaucoup vu accompagnée, et là c'était l'occasion aussi de te voir seule, et voilà, c'était vraiment un moment super. Et donc la chanson qu'on va vous passer, c'est... Une chanson, c'est une reprise en fait de Anne Sylvestre sur Les gens qui doutent, qu'on trouve épinglée sur les réseaux sociaux quand on cherche Lola qui doute.
Très bien, mais nous allons écouter ça tout de suite.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent sans se dénoncer. J'aime les gens qui trinquent parfois innocents, capables de juger. J'aime ceux qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. Et j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui panique, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte d'être au bout du compte, que des ratés du cœur, pour n'avoir pas à se dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. Et j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui n'osent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme, les daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. Et j'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent et voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leur automne au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie merci d'avoir vécu. Et merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles.
On est de retour sur Catalyse, Fréquence Mistral. Nous sommes toujours le jeudi 24 novembre et on est en compagnie de Lola. Donc, les gens qui doutent de Anne Sylvestre, toi, qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette chanson?
Eh bien, ça dépend vraiment de la période dans laquelle je suis. Là, je suis activement en recherche d'un nouveau nom qui n'est pas encore tombé sur ma route, mais je sais qu'il va arriver. Donc, cette chanson, pour moi, représente quand même une grande période de ma vie. Ça fait 3 ans, je crois, que j'ai créé cette page, Lola qui doute. Et j'aimais vraiment beaucoup cette chanson. Oui, c'était une façon pour moi de lui rendre hommage et tout ça. Et puis c'était dans mon personnage, quoi. C'était la personne qui doute, la personne qui du coup peut se protéger derrière ce personnage-là aussi, d'être pas sûr. Donc excusez-moi, un peu côté qui s'excuse, quoi. Enfin, c'est comme ça que je le vois maintenant. Avant, je le voyais comme le doute qui agrandit les choses, qui fait que c'est ouvert et que tu peux traverser l'univers sans être particulièrement quelqu'un. C'est il y a aussi ça dedans, mais là maintenant j'ai envie de privilégier juste le fait de choisir vraiment un nom où je me sens pleinement dedans. Je me sens,
c'est pas évident de choisir un nom
c'est dur.
Qui représente en, comment dire, peu de syllabes généralement, parce qu'il faut quelque chose qui soit accrocheur, qui représente tout ce qu'on a envie de capturer, toute l'émotion qu'on a envie de capturer, la personne qu'on a envie de capturer. C'est pour ça, bien réfléchir, c'est important.
Ouais, là, ça fait quelques mois que j'ai amorcé le changement. Puis c'est tout un truc, c'est une phase de vie qui se tourne aussi. Ça, j'ai créé cette page avec ce nom-là quand j'étais dans une certaine situation, avec certaines relations. Ça, c'est très empreint de cette période-là.
Une page sur Facebook dont tu parles?
Oui, voilà, okay. C'est ma page Lola qui doute. C'est là où ça a commencé, en fait. J'écrivais des textes. C'était plus des choses sur la réflexion sur l'humain, sur sa pensée, sur sa façon de fonctionner en relation. Au départ, c'était un truc un peu de thérapie, quoi.
Oui, une sorte de petit journal intime, artistique.
Ouais, voilà.
Ok.
C'était ça. Et puis maintenant, j'ai envie de quelque chose qui ait l'air plus plein et chaud. De, ok, on peut douter, mais on peut aussi être sûr de soi. C'est une nouvelle façon j'ai envie de donner ça aux gens aussi, qu'on a le droit de briller, d'être chaleureux et d'être plein devant les autres.
Oui, parce que le doute, c'est deux choses. C'est ne pas être sûr de soi, mais c'est aussi voir autour de soi qu'il n'y a rien de permanent et qu'il faut douter pour pouvoir s'adapter.
Mmh.
Donc toi, ce que j'entends, c'est que tu n'es plus dans le personnage qui se cache un petit peu derrière le fait de ne pas être sûr, et que tu veux maintenant prendre toute ta place dans l'univers. Moi, je sais que ça m'a beaucoup parlé, tes chansons, parce que, quelque part, tu nous ouvres ton univers intérieur. Donc, c'est quelque chose qui me parle beaucoup.
Mmh. Ouais, elle est importante, cette faille, quand même. J'espère juste la donner avec plus de rondeur et d'amour. Mais la faille est toujours là.
Après, c'est tout le travail d'un artiste. Je pense que quand on démarre la musique, c'est qu'il y a un petit quelque chose qui est bien particulier avec nous, et cette chose-là, elle est toujours là, même si elle évolue avec nous. Et donc, du coup, là, tu parles du doute. C'est vrai que le doute, on peut être enfermé dans un doute, comme le doute peut nous ouvrir des possibilités. Et au fur et à mesure de la vie, tout ça, ça évolue. Donc, c'est normal aussi que ton parcours artistique évolue en fonction de ta personnalité. D'ailleurs, on va parler un peu de ton parcours musical. Comment tu as commencé? Est-ce que tu as été baigné dans la musique dès que tu étais petite? Est-ce que tu as découvert un instrument qui t'a donné envie? Est-ce que ça a été l'écriture?
J'ai pas baigné dans la musique dans le sens où mes parents sont pas particulièrement musiciens, mais mon père chante beaucoup, invente des trucs, met des mots à la place des autres. Enfin, il est un peu fou, quoi. Et du coup, dans la cuisine, je l'entendais chanter. Ma mère aussi, elle danse. Enfin, j'ai quand même baigné là-dedans, mais pas avec des musiciens, plus dans la culture musicale, la fête, voilà. Et il y a un moment où j'ai eu envie de faire du piano. Je sais plus exactement quand est-ce que ça s'est passé, mais oui, je voulais jouer l'Aigle Noir. Il y a quelqu'un qui a joué devant moi, et là je me suis dit mais il y a un truc qui vibre là-dedans. J'étais petite, quoi, mais je sentais que ça m'inspirait vraiment. Mais à ce moment-là, t'as pas d'idée particulière, de théorie sur pourquoi. Juste, je trouve ça incroyable. C'est un truc qui venait de, j'ai vraiment envie de m'amuser avec ça, quoi. C'était ça à la base. Et puis ensuite, c'est par le biais de l'écriture que je suis surtout rentrée dans cette passion-là. J'ai aimé jouer de la musique, mais j'ai aimé écrire tout de suite, composer au piano. C'était aussi venu d'une lacune, du fait que je lisais pas les partitions et que du coup j'essayais de me souvenir de ce que la prof me montrait pour combler ma lacune. Et je finissais par inventer des trucs au milieu quand j'avais des trous, quoi. Donc j'ai réalisé que je savais inventer des choses, en fait. Et ce que je préférais, au final, c'était interpréter mes propres trucs, ce qui vibrait vraiment en moi. Ouais, ce qui m'éclatait le plus, c'était de rester dans la chambre et d'essayer des trucs nouveaux, de pleurer sur le piano parce que j'avais trouvé les mots qu'il fallait. Enfin, ouais, c'était comme un jeu entre le piano et moi qui me renvoyait ce que je ressentais, en fait.
Oui, vraiment une expérience artistique dans tout le, comment dire, dans toute la globalité d'une expérience, vraiment de ce petit sentiment de curiosité jusqu'à l'accomplissement du « j'ai réussi à faire quelque chose et ça vibre en moi ». Ok.
Au-delà de la musique, sur ta page, par exemple, tu as partagé des vidéos, des photos,
ouais.
Beaucoup d'écriture aussi. C'est quelque chose que tu continues ?
Oui, l'écriture ? Maintenant, vu que c'est devenu mon métier, musicienne, c'est devenu un peu plus sérieux dans ma tête, mais je recherche à nouveau cette largeur de j'écris et je suis pas obligée d'en faire une chanson, je suis pas obligée d'en faire quoi que ce soit. Donc des fois j'essaye, mais j'ai du mal à me mettre dans une bulle, à me dire ça ne sert à rien, j'écris seulement, et j'ai envie de retrouver ce truc-là. Mais oui, c'est hyper important pour moi. Ce que je préfère et ce dans quoi je me retrouve le plus, le titre, c'est auteur. C'est les mots. C'est ça que où je me sens le plus à l'aise et qui vient naturellement, quoi. Puis après, les chanter, c'est encore mieux, de les envoyer, de les crier, c'est génial, mais...
Donc ouais. Tu es plus dans une démarche où ta musique va accompagner les mots, vraiment, elle est là vraiment pour mettre en valeur les mots.
Ouais, bah pour l'instant c'est ça, même d'accord. Si je suis en train de découvrir petit à petit le pouvoir de la musique et de ma composition à la guitare, je fais plus de périodes de juste jouer de la guitare, faire tourner quelque chose, entrer en transe avec le truc. Je commence à comprendre, mais je manquais de technique à la guitare pour peut-être toucher ce truc-là. Maintenant que je prends des cours, je comprends un peu plus, ouais.
D'accord. Et donc, du coup, tu nous as parlé que tu as commencé, toi, plus ou moins avec le piano. Et à quel moment dans ta vie c'est arrivé, justement, la guitare ? À quel moment tu t'es dit, j'ai envie de chanter mes chansons avec une guitare dans les mains ?
Je sais pas exactement. Il y a un moment où j'ai fait un premier concours dans mon lycée, là, et j'ai dû monter sur scène. Et je sais pas, c'était plus facile, peut-être comme un truc qui vibre sur ton ventre pendant que tu chantes. Déjà, ça change la voix. Je trouvais que ma voix sonnait mieux, que j'arrivais plus à l'envoyer. Et peut-être que en ayant réfléchi à ça maintenant, j'ai l'impression que ça me faisait peut-être une protection, quoi. Quand je suis allée sur scène pour la première fois, j'avais ça devant mon ventre et je pouvais envoyer, quoi. Et donc ça a commencé là. Mais je joue mieux du piano que de la guitare. Mais c'est plus transportable une guitare et j'aime bien ce que ça fait. J'aime bien la chaleur du truc. Mais je pense à reprendre le piano aussi.
Ok. Thibaut, des questions ?
Justement, quand tu crées, tu as besoin de rentrer dans une bulle et vraiment d'être... Dans quel état d'esprit tu es pour produire, en fait, pour arriver à sortir quelque chose de toi ? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais en lien avec d'autres personnes ou c'est vraiment quelque chose qui t'est personnel ?
J'ai jamais vraiment réussi à créer avec quelqu'un d'autre, surtout l'écriture. Et même la composition, parce que ça vient ensemble. Pour moi, c'est un package dans l'émotion. J'ai du mal à partager cette émotion avec quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est aussi ce que j'ai pas forcément envie pour l'instant. J'aime cet intérieur, en fait, où je suis seule. Et ça m'arrive peu dans ma vie, en fait, de me retrouver aussi profondément avec moi quand j'écris. Donc, je garde cet espace qui est important pour moi. Et oui, ça, les chansons, je les écris, ça me vient d'une impression. Des fois, j'écris pas tout de suite, mais je peux m'en souvenir de cette impression que j'ai eue en regardant quelque chose. Et je me remets là-dedans et ça revient dans les sensations du corps. Juste regarder par la fenêtre avec cette impression que je sais que je vais mourir. Genre, tout d'un coup, les étoiles, elles me parlent de ça et je suis là. Ok, je vais garder tout ce qui se passe dans mon corps là et les images sortent de ces sensations. Je sais pas, comme si je me connectais à un truc là et que... C'est là où je trouve que c'est le plus intense, quoi. C'est un état de présence, quoi.
D'accord. Donc tu as décidé de nous partager une de tes chansons de ton nouvel album. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Oui. Cette chanson s'appelle Derrière la scène et je l'ai écrite par rapport à une période que j'ai vécue où j'étais pas mal baignée dans ce monde de la thérapie et d'aller chercher qui on est au fond, un peu tyranniquement. J'ai rencontré un homme qui était à fond là-dedans, que j'ai suivi. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais un peu trompée, quoi. Et c'est un peu cette histoire-là de à quel point j'ai cherché à regarder derrière la scène de théâtre qui se trouvait. Et vu que je sais que je vais sûrement chanter une chanson ensuite pour faire le parallèle et un peu un teaser, j'ai l'impression que c'est une chanson et l'album parle aussi de choses du passé surtout. Des choses dont je me souviens, des réminiscences que j'avais besoin d'exprimer et de presser comme une éponge pour que ça, je puisse remettre mes pieds dans le présent. Et celle-là, c'est la première chanson de l'album. Et elle parle vraiment de ce truc-là, de cette période de vie que j'avais envie de mettre dans une boîte et de dire, ok, je l'ai sublimée, elle est là, ça fait partie de mon histoire, mais maintenant, c'est dans une chanson, c'est bon, c'est à l'extérieur de moi. Et j'avais envie de passer celle-là parce que c'est la première de l'album et qu'elle introduit bien l'histoire que je vais raconter dans La Traversée.
Nous allons passer du coup ton titre tout de suite et on se retrouve après pour parler de La Traversée. Si toi ça te va.
Ça me va bien.
Allez, on est parti.
J'ai ces images en tête, ce qui a été vécu avant, les années passées, pas plus vrai qu'un rêve maintenant, des sourires à la caméra, par paquet de 10, je capturais nos gestes, pour mieux nous comprendre, nous si ces images sont si complexes, qu'elles inondent mes textes, son corps de flamme entre mes doigts, des fils d'amour que je n'ai pas, un flou si mystérieux, qu'on peut y voir ce que l'on veut comme dans un miroir, on peut voir ce qu'on veut croire, je voulais savoir, quel infini se trouve derrière la scène. Je voulais savoir quel infini se trouve derrière la scène. J'étais heureuse, nous l'avons bien vécu ce temps étiré malmené. Au gré des nuits, au gré des vents, on s'était tendu. De chaque côté des limites, dans le noir comme dans la lumière, que l'on s'enterre ou qu'on l'évite, j'ai rendu hommage au chemin. Je me suis mariée dans le noir, je tiens vos silhouettes dans mes mains. Dans le creux de ma mémoire, je me suis prosternée. J'ai hurlé mes ancêtres, j'ai vu leur ombre en moi. Rire de nous, me tenir tête, je voulais savoir quel infini se trouve derrière la scène. Je voulais savoir quel infini se trouve derrière la scène. Je voulais savoir, je voulais voir, je voulais aimer, je pouvais en crever pour qu'on me voie. Regarde au fond de l'âme, qu'on essaye pour une fois, sans avoir peur d'y voir les larmes. Je voulais des fous, je voulais qu'il y ait autre chose. Je voulais des loups, je voulais des métamorphoses. Je voulais savoir quel infini se trouve derrière la scène. Je voulais savoir quel infini se trouve derrière la scène. Des corps et dans leur vide j'ai regardé leur visage changer, leurs fractures et leurs plaies, l'humain et ses regrets. Depuis le début des temps j'ai vu ce qu'ils traînaient derrière leur corps d'enfant. J'ai cru que je savais, je me suis trompée souvent. Je voulais savoir quel infini se trouve derrière la scène. Je voulais savoir quel infini se trouve derrière la scène. Que l'amour, alors je la garde. Je la danse seule dans ma chambre, je la regarde. Elle me touche, je me cambre, j'aime en solitaire. Avec cette idée enfin claire que l'on est seul et que nos malheurs nous éclairent, je voulais savoir.
C'était Derrière la scène de Lola. Nous sommes toujours sur Fréquence Mistral dans Catalyse. Et c'est le moment de l'émission. Je voulais un petit peu parler de ce projet, Lola, La Traversée. Donc du coup, j'aurais bien aimé que tu expliques un petit peu aux gens qui nous écoutent, si possible, bien sûr. Vraiment, comment est-ce que tu es arrivé jusqu'à cet album, La Traversée, en partant du projet? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce projet et quelles ont été... comment dire, les étapes que tu as pu découvrir et quelle a été l'évolution un petit peu dans ton sentiment face à la création de ce projet-là?
Cet album a commencé vraiment à vue, sa graine poussée. Il y a un chat, vous l'avez peut-être entendu. Au moment où justement, quand tu en as parlé tout à l'heure, je me suis cassé la main et donc j'ai dû... me faire accompagner par quelqu'un que j'ai rencontré à ce moment-là, qui est arrivé dans ma vie et que j'ai trouvé fantastique. Et du coup, je lui ai demandé, est-ce que tu veux bien jouer du piano pour moi? J'avais une date à faire au Café Quoi, la salle de Fort Calquier. Et donc, avec cette main cassée, je pouvais pas. Donc, cette coopération est née de là, de cette main cassée contre une vitre, parce que je jouais au loup à ma crémaillère. C'est de là que ça a commencé. Et puis ensuite... je sais pas exactement ce qui s'est passé parce qu'en fait je me suis pas rendu compte en enregistrant tout le chemin que j'allais devoir faire ensuite. Ça fait un an que j'ai enregistré l'album. On a créé un studio à la maison avec mes colocs de l'époque. Ils ont construit le studio surtout, impressionnant. Ils ont créé le cocon dans lequel on allait enregistrer ce truc-là pour ce projet-là. Ils sont ingé son, donc ils s'y connaissaient un peu. Et au dernier moment, il y avait cette personne qui s'appelle Sam, qui joue le piano du coup dans l'album et qui a fait les arrangements avec moi. Il est venu pour une semaine et je sais même pas, je crois que je l'avais pas prévenu. Je lui ai dit bah voilà, il y a le studio, on y va. On avait un concert à faire à la SDAC à la fin de la semaine et au lieu de répéter simplement, bah on a enregistré en même temps qu'on répétait quoi. Donc c'est un album instinctif de live qu'on a créé nuit et jour pendant une semaine en huis clos quoi. Donc il a cette ambiance là, l'album de maison, d'amis qui se retrouvent, une chaleur. Et des fois quand on enregistrait, il y avait des gens dans la pièce aussi, dans le studio. On racontait des histoires pour amorcer les chansons, même si elles sont pas sur l'album. J'ai l'idée que ça teinte quand même l'ambiance de ce qu'on va donner. Et donc ça a commencé là, et je l'ai un peu chopé au vol parce qu'il avait déménagé à Dunkerque, donc là il était là pour une semaine. Je sais pas ce qui est passé dans ma tête, mais il y avait le studio, j'avais envie de créer un truc de fou que j'avais jamais fait, et du coup on y est allé, je savais pas du tout dans quoi je m'embarquais. Et donc ensuite, pour parler de cette traversée, oui, ça a duré quand même un an, où forcément j'ai eu des doutes, et... vu que je savais pas comment ça se passait, en fait, j'avais jamais fait, on m'en avait jamais parlé, donc j'ai dû apprendre tout petit à petit. Je me suis dit, tiens, je vais faire une cagnotte. Comment on fait pour communiquer là-dessus? Comment je fais pour réunir les gens, qu'ils aient envie de me donner des sous, que ça leur parle? Et du coup, j'ai fait une grande traversée dans ce que je pensais devoir donner aux gens pour qu'ils m'aident, me soutiennent, soient présents. Et en fait, ce qui marchait vraiment, c'était juste les explosions que j'avais de joie d'avoir réussi à collecter une certaine somme. C'était ma vulnérabilité, que ce soit la première fois que je demande aux gens, que je sois là toute tremblante avec un projet qui me tenait tellement à cœur, qui me tenait tellement dans les tripes, que en fait, j'ai découvert que... et j'aimerais vraiment passer ce message, je crois, d'être soi-même, ça paye quand même vraiment. Je m'y attendais pas, en fait, à ce qu'il y ait autant de sous sur cette cagnotte.
Oui, parce qu'en plus, il me semble que tu as dépassé de pas mal le montant que tu t'étais fixé. Donc, ça montre qu'il y a vraiment eu un engouement de la part des gens qui te suivent, même des gens un peu silencieux, qui disent pas forcément qu'ils aiment ce que tu fais. Et je trouve ça beau, comment dire, qu'il y ait des gens qui aient cru en ton projet et qui se sont dit qu'ils allaient y contribuer de manière pécuniaire, parce que c'est important, mine de rien, s'il faut avancer de l'argent pour faire un album. Donc ouais, c'est vraiment chouette que autant de gens se soient mobilisés pour la sortie de quelque chose.
Ouais, Je me suis retrouvée face à des humains qui m'ont répondu que ça leur faisait vraiment plaisir. Enfin, au début, j'étais là, mais pourquoi tu fais ça? je me posais des questions. Je me disais, mais est-ce que je suis un imposteur? Qu'est-ce que je leur ai vendu et tout? Et en fait, je m'en suis rendu compte qu'ils avaient vraiment envie parce que ça leur tenait à cœur que ça existe.
Maintenant, quel regard tu portes là-dessus?
Sur
le fait que les gens t'aient fait confiance.
Je réalise seulement maintenant, parce que j'étais tellement dans le bain de cette traversée, justement, j'étais tellement la tête dans le guidon à stresser pour le rendu, pour les dates, pour le mastering, parce que je pars au Mexique dans pas très longtemps pour prendre du recul, donc j'avais une deadline importante. J'étais tellement stressée que j'ai pas pu regarder en arrière et ni fêter, lever mon verre à waouh, merci. Enfin, je l'ai fêté par 2 secondes où je me suis autorisée à faire ouh, et après je me suis dit, il faut que je continue le chemin, quoi. Donc là, maintenant que le mastering est terminé, je commence à sentir la joie qui monte, à me dire, mais tu te rends compte le chemin que t'as fait, tu te rends compte les gens qui t'ont soutenu, c'est hyper chaleureux et c'est il faut une force incroyable pour accepter de le sentir, en fait, pour arrêter justement d'être cette personne qui pense qu'elle est toute seule dans son coin et changer de paradigme, changer de personnage, c'est d'où le nom qui change aussi, quoi.
D'accord. Et donc du coup, pour ce que tu as dit, moi j'ai pas mal de petites questions qui me viennent. Tu pensais que ça te prendrait combien de temps au début
En fait, mes objectifs ont changé au fur et à mesure, parce que au début, moi je pensais faire ça, voilà, une semaine, on a enregistré déjà, c'était beaucoup trop peu par rapport à... Enfin, maintenant, j'aime l'ambiance que ça lui donne, de toute façon, cette espèce d'urgence et on a passé beaucoup de temps ensemble, compact. Mais au départ, je pensais qu'on le mixerait un peu à la rapide, mais juste pour que ça soit un produit qui soit mis en boîte, quoi, que enfin j'ai posé ces mots-là. Et je pensais pas aller jusqu'au mastering, je pensais pas demander autant de sous, je pensais pas en recevoir autant. Donc au fur et à mesure que j'ai vu qu'il y avait les possibilités qui grandissaient, j'ai mis plus d'énergie, j'ai fait plus de recherches, j'ai posé des questions, et en fait au fur et à mesure la date s'éloignait, parce que je voyais que j'avais les possibilités d'y travailler encore plus et que ça soit encore plus beau. Mais au départ, je pensais qu'on allait y mettre quelques mois, selon la motivation de la personne qui allait le mixer. Oui, voilà. Je pensais pas en parler ni quoi que ce soit.
Ça fait parallèle avec la deuxième question que j'ai. Donc toi, tu es intermittente du spectacle à l'heure actuelle. C'est ton métier.
Oui, c'est mon métier.
Tu t'es décrit comme auteur, mais bon, vu que tu as un projet qui est quand même musical et que tu participes à la composition, si j'ai un peu compris. Donc du coup, ça fait auteur-compositeur-interprète. Donc c'est ton métier, et durant toute ton expérience pour arriver à ton projet La Traversée, est-ce que tu as découvert justement des métiers dans l'univers de la musique au fur et à mesure que tu t'es dit, ah bah tiens, il y a des gens, c'est leur boulot de faire ça sur un son, ou tiens, il y a des gens, je savais pas que c'était un métier de la musique, parce que des fois il y a un peu, je vais en parler un petit peu plus tard, mais il y a un peu des métiers de l'ombre, on entend souvent parler, comment dire, d'ingé son, de mixeur, de compositeur, d'arrangeur, ce genre de choses, mais est-ce que toi justement tu as découvert une autre facette de la production musicale par rapport à ton projet?
Et inversement, est-ce que tu as dû, toi, apprendre des choses que tu connaissais pas pour justement aller au bout de ton projet?
Bah oui, j'ai rencontré de nombreux titres de métiers que je ne connaissais pas, dont d'ailleurs je me souviens pas forcément. J'ai tellement dû apprendre que je me suis donné les titres de tout ce qui allait devenir sur mon chemin, mais du coup je me suis renseignée auprès de gens aussi qui ont pu un peu me répondre. Et il y a les attachés de presse. Bon, j'y connais rien, toujours rien, mais ce mot a résonné plusieurs fois, donc je me dis, il faudrait peut-être que je trouve... Oui, attaché de presse, non mais attaché quand même. Et puis il y avait aussi le design, je sais pas donner les mots vraiment qui ont de cette technique et tout, mais je sais qu'il y a des gens qui ont dû faire, enfin une personne qui est une amie à moi qui fait la pochette de mon album, il fallait faire aux bonnes dimensions, fallait pouvoir avoir une connaissance sur tout ça, et enfin j'ai vu que ça lui prenait beaucoup de temps. Ouais, voilà.
L'industrie, parce que c'est une industrie la musique aujourd'hui.
Oui.
Standard,
ouais.
Si je connais pas, c'est vrai que c'est compliqué.
Ah oui, moi j'étais perdue. Heureusement qu'elle m'a aidée. Elle savait. Elle fait une école, donc on est tous en train d'apprendre. En fait, tous les gens à qui j'ai demandé sont soit en train d'apprendre, soit, sauf pour le mastering. Mais Et donc j'ai appris aussi ce que c'était le métier d'ingénieur son dans le mixage, et le changement que ça donne au morceau, et le travail et les heures de travail et la précision. Enfin, c'est Mano Alix qui a fait le mixage sur mon album, qui est en école, et on a beaucoup communiqué, et j'ai vu que c'était vraiment, enfin, chacun à son pôle avait de l'or entre les doigts, des possibilités, et je savais pas en fait qu'on pouvait faire ça. J'ai découvert aussi qu'il me fallait être un peu productrice quand même pour pouvoir promouvoir la cagnotte. Ça a commencé là en fait, de faire des posts instagrammeuses. Ça m'a fait péter des câbles. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça le mot.
Et d'ailleurs, je le vois dans mes projets, mais faire du community management, c'est pas seulement poster des choses sur les réseaux. Il y a vraiment des normes auxquelles il faut répondre, des algorithmes dans lesquels il faut rentrer. Donc tout ça, ça
oui, ouais, il y a des fois où tu peux faire un post super et les gens ne vont pas le voir du tout, en fait. Ouais, voilà, au bon moment. Bon, j'ai pas vraiment appris ces trucs-là parce que vraiment, ça m'a fait péter un câble. Je crois que je suis pas câblée pour faire ça pour l'instant. Et c'est donc pour ça que je me suis rendu compte que c'était carrément un métier et qu'il y a des gens qui savent le faire. Et même, il y a des gens qui savent pas le faire mais qui ont envie d'apprendre. Par exemple, il y a mon ami Lalia. Je vais faire passer tout le monde parce qu'ils sont géniaux. Et donc, ouais, voilà. Lalia, c'est pour toi. Et du coup, je lui ai proposé. J'ai vu que je pouvais pas tout faire. Et que ça allait commencer à me pressoriser, et j'avais envie en fait d'être en équipe, même si je suis en solo, j'ai envie d'être en équipe. J'ai pas forcément envie de créer avec des gens pour l'instant, de rentrer dans cet espace ensemble, mais par contre créer avec quelqu'un qui m'aide à gérer les réseaux sociaux, qui m'aide à une tourneuse aussi, enfin, à trouver des dates, à communiquer avec les gens, enfin, j'ai envie d'essayer ça. Donc je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de postes en fait dans une équipe. D'un solo, il peut y avoir vraiment une vingtaine de personnes au service, quoi. Et donc voilà, j'ai appris qu'il y avait ce truc là et le mastering, que j'ai découvert hier, tout juste, tout frais, et que c'est un métier incroyable. Enfin, c'est Olivier Planchard qui a fait le mastering de l'album. Et je suis allée dans son studio, c'était vraiment un vaisseau spatial avec on aurait pu s'envoler, quoi. Je sais, lui, je lui ai demandé direct, est-ce que tu voulais pas être pilote, toi? Et il m'a dit oui. C'était vraiment une salle de décollage, quoi. Et j'ai vu que c'était vraiment un four alchimique précieux, et que tous ces métiers-là sont vraiment profonds, chacun à son poste. Créer quelque chose vraiment à part entière avec le détail qu'il peut apporter, et c'est tellement de temps, et j'ai tellement de gratitude pour le temps qu'ils ont donné à quelque chose que quelqu'un d'autre a fait. C'est quelque chose que je trouve vraiment beau à regarder, quoi.
Et du coup, pour faire la transition un petit peu, mais le travail de mixage et de mastering, c'est vraiment un travail qui va modeler de la sonorité du coup de ton album. Et toi, comment tu t'es senti face à ça, de voir que quelqu'un d'autre était en train de transformer ton travail? Est-ce qu'il y a eu des moments où ça a pu te donner des idées? Est-ce qu'il y a eu des moments où au contraire tu t'es dit, ah mince là, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Voilà, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton ressenti face à cette période où justement c'est les autres qui travaillent ton son?
Avec le mixage, surtout, ça a été une communication, quoi, entre proposition et réponse, et ça a duré plusieurs mois là. Et y a des fois où j'étais pas contente parce que j'avais l'impression j'étais insatisfaite de ma capacité à donner les mots techniques pour pouvoir changer ce que j'aimais pas quand j'avais des réponses à faire. Et puis au fur et à mesure du temps, on a appris un langage commun et j'ai commencé à parler en poésie un peu plus. Voilà, maintenant il va falloir que ce soit, enfin, c'est avec des sensations et on se comprenait, quoi. Et ouais, j'ai été assez surprise par le relief qu'il avait donné à l'album. Quand on l'a écouté, il y a des chansons que j'aimais pas trop et maintenant je les aime toutes. Enfin, il a vraiment fait un travail de rien que dans le subtil, juste donner l'énergie, gonfler la chanson d'attention en fait. Et il m'a renvoyé mes mots en fait, et ça c'était vraiment précieux. Et le mastering pareil, quoi, avec une vision différente, mais là c'est encore un peu frais, donc je peux pas en parler autant.
Tu nous as partagé du coup la gratitude que tu avais d'avoir été accompagné dans ce projet solo. Est-ce que tu as prévu de fêter ça avec toutes ces personnes qui t'entourent?
Ah oui, je pense que on va faire ça quand ce sera sorti sur les plateformes. Enfin, c'est Manon qui m'a donné cette idée-là, mais genre de faire un décompte comme le jour de l'an, quoi. Quand je rentrerai et qu'on sortira l'album sûrement en février, faire une fête de sortie, quoi. Ça se dit release party. Il y a quelqu'un qui m'a proposé de faire justement une release party. Et j'ai découvert que oui, c'était carrément une fête à... Ouais, tout le monde fait la fête pour ça, non? Et puis j'ai vraiment envie de fêter les choses qui sont importantes et les étapes. Et donc, ouais, je pense que... Ouais.
C'est bien de fêter... la fin de cette traversée, de ce long périple, et de dégager un peu toutes les émotions que tu as accumulées aussi au fur et à mesure du temps. Du coup, c'est venu l'heure pour ma petite chronique de chaque jeudi, de chaque émission. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu le chemin pour aller d'une idée à un CD, et donc on va voir un peu les différentes formes de métiers. Donc par où tout ça commence? Tout ça commence par déjà une composition, quelque chose d'artistique, quelque chose qu'on a dans la tête et qu'on va mettre sur du papier ou sur un ordinateur. Donc du coup là, pas forcément de métiers qui interviennent, si ce n'est peut-être des musiciens pour les gens qui ne sont que interprètes ou qui sont juste auteurs-interprètes et pas compositeurs. Ensuite, ce morceau-là, il va falloir le mettre en forme. Et c'est là qu'interviennent certains métiers comme arrangeur ou écrivain. Donc on va faire un arrangement, on va... prendre, comment dire, certaines parties de ce morceau, on va les retravailler, on va essayer de changer, que le tout donne quelque chose de cohérent, et pour certains, écrire. Donc c'est là qu'on a besoin, et que, comment dire, on entend les termes de direction artistique, c'est là qu'on va avoir besoin de compositeurs, parfois de producteurs, parfois de managers, parfois de directeurs artistiques, tout simplement. Donc ce travail-là va avoir pour but d'élaborer une ligne de conduite, si c'est pour un album, notamment comme celui de Lola, pour la traversée, ou de donner une homogénéité à un morceau. Ensuite, il faut l'enregistrer. Et là, on se pose la question du « est-ce qu'on va en studio ou est-ce qu'on a un home studio ?» Donc il me semble, toi Lola, que, comme tu nous l'as dit, tu as tout fait dans un home studio que tu as créé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que tu as aimé dans le fait de faire les choses 100% chez toi?
C'était gratuit. Non, c'était presque gratuit. Et je trouve ça fou, moi. Là, ça donne... avec le mastering, j'ai remarqué quand même, on a écouté d'autres morceaux, d'autres artistes après qui ont été produits et tout ça. Et ça donne à peu près la même chose, en fait. C'est... Avec peu de choses, on peut quand même vraiment on peut faire de la qualité, quoi.
Oui, aujourd'hui, avec un peu de motivation et, comment dire, cette curiosité de vouloir rechercher à droite, à gauche, un peu des idées pour se débloquer ou justement des tutoriels pour se débloquer, on peut quasiment tout faire soi-même maintenant et c'est ça qui est vraiment chouette. Je trouve ça bien que toi, tu aies réussi à créer cet espace de création du coup chez toi, ce home studio, parce que comme tu es quelqu'un qui écrit et qui joue de la musique pour capturer et délivrer ses émotions, bah, ça fait vraiment partager aux personnes qui écouteront les énergies qui étaient présentes autour de toi quand tu as enregistré ces morceaux.
Oui, bien sûr, je disais gratuit surtout en premier pour rigoler, mais c'est vrai que c'est quand même une cabane, quoi. C'est... Puis les gens qui étaient invités ce soir-là, par hasard, eh ben, on les invite aussi dedans et on laisse faire le hasard. Et c'est pas aseptisé, c'est pas des vitres, c'est pas...
Non, c'est un espace d'échange qui est ouvert.
Ouais, je suis déjà allée en studio et enfin, c'était pour un autre projet, donc je sais pas ce que ça donnerait avec le mien là. Mais je me suis pas sentie vivante de donner l'imperfection. Et c'était tellement propre, tellement cadré que bah, j'y perdais vraiment le sentiment d'être avec les autres. Et...
Voilà, pour toi, c'est important justement de te sentir en lien avec d'autres personnes dans ce cadre-là?
Ouais, une fois que je le donne, en fait, le morceau, je le fais vachement. Je l'écris, je le compose dans ma solitude. Mais ensuite, je donne jamais mieux mes chansons que quand il y a quelqu'un avec moi dans la pièce et je crée le setting, en fait. Là, je sais ce que ça va procurer. Il y a beaucoup de gens autour. Je leur ai dit, racontez un souvenir de quelque chose qui vous a ému. Je sens qu'il y a l'émotion qui monte. Moi, j'ai besoin de me charger de ces trucs-là et ce que j'aime, c'est créer ces ambiances-là avec les autres et c'est avec les autres que je le partage. Toute seule, non, je n'y pense même pas.
Oui, et puis tu vois la différence avec un vrai studio, c'est qu'un vrai studio, c'est quelque chose de formel. Il y a des professionnels, c'est leur lieu de travail. Il y a des instruments, il y a des machines mises à disposition, souvent de très très bonne qualité. Et même dans la démarche d'aller au studio, je le vois avec pas mal de rappeurs, quand certains rappeurs disent « je vais au studio », c'est quelque chose de très formel, tel jour, telle heure, je vais aller enregistrer un son, je vais pas chez un pote pour faire une maquette ou quoi, c'est vraiment « là je vais au travail ». Et ça va avec le format de l'industrie du disque au final, parce que en effet, aller au studio, ça peut s'apparenter à aller. Et pour élargir un petit peu sur la musique mainstream, et j'ai pas vraiment de honte à le dire, la plupart des personnes qui font de la musique mainstream aujourd'hui, c'est leur travail. Il y en a certaines, elles font plus vraiment ça pour le côté artistique. Et donc du coup, le fait d'aller, comme je dis, le fait d'aller au studio, c'est vraiment aller au boulot, quoi. On fait partie d'une industrie. Donc c'est pour ça que moi, je trouve que le format que tu as choisi de faire ton studio chez toi est vraiment très bien adapté. Mais bon, revenons. Une fois qu'on a enregistré notre musique, du coup, on l'envoie en post-production. Et là, la post-production, c'est là où le nom de certains métiers va commencer à être inconnu et farfelu. C'est là où on va vous parler d'ingé son, de mixeur, de master, et j'en passe encore, mais il y a énormément de métiers qui touchent la post-production. Donc du coup, c'est quoi le but de faire un mixage et de faire un mastering? Le mixage, c'est ce qui va donner l'homogénéité entre toutes les pistes, et c'est là où on va commencer à faire des choix artistiques. Et c'est vraiment la phase où on va passer d'un caillou brut à un petit diamant, sans le polissage, ça ce sera pour le mastering. Et donc du coup, le mastering sert à prendre ce diamant, à le polir et à vraiment passer d'un son donc bien homogène grâce à la phase de mixage, à un son avec beaucoup de dynamique, un son qui peut sonner fort, où tous les petits détails sont mis en relief. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Mais bon, une fois que notre son, il est bien beau, il est tout propre, il va falloir dire aux gens que on a sorti ou on compte sortir quelque chose. Donc du coup, c'est là que la communication entre en jeu. Donc on en profite pour remercier Fréquence Mistral. On peut communiquer grâce à la radio, mais on communique surtout aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux, mine de rien, eh bien, ça engage des vrais métiers. Un petit truc à te demander comme ça, mais vu que tu gères tes réseaux sociaux, qu'est-ce que tu trouves de plus redondant dans l'utilisation des réseaux sociaux un peu de manière très régulière?
C'est que c'est tellement présent, c'est envahissant en fait. Et faut être vraiment très très fort, je pense, et avoir bien guéri sa faille narcissique et de besoin de reconnaissance pour le vivre bien en fait. Moi, j'aimerais bien être plus solide là-dessus, mais je sens que ça m'impacte en fait. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça marche pas? Ça me prend la tête. Est-ce que, à des moments, j'ai senti que mon bateau à moi il tanguait vers être acceptable et pas dire ce que vraiment j'avais envie de dire. Et ça me polluait en fait. Et ouais, j'ai eu envie de fuir tout ça quand même. Parce que ça me faisait peur, en fait, le regard de l'autre avec une interface. Mais personne n'a jamais été méchant avec moi sur ces réseaux. C'est déjà, je trouve ça fou. Enfin, j'ai eu beaucoup de messages, plutôt de partage et de choses belles. Au final, ça a quand même permis des choses belles avec des gens que je connais pas, que j'ai jamais croisés. Enfin, des partages qui sont que parce qu'il y a les réseaux sociaux. Mais oui, je trouve ça envahit beaucoup le temps, l'esprit, et on a tout le temps notre téléphone, ça fait un dling, on a envie d'aller regarder, et ça me crée une tension dans le corps que j'ai envie de laisser aller. Et j'ai aussi envie de pas être radicale sur peut-être partir carrément de ça, mais j'ai envie de m'entraîner à le prendre différemment, à respirer là-dedans. Mais j'ai quand même envie du coup de délayer ce truc-là au bout d'un moment, même si du coup ce sera moins personnel parce que j'ai quand même envie de parler aux gens directement. Donc ça me pose question, j'ai pas résolu. Mais...
Et du coup, une fois que on a bien communiqué autour de son produit, il faut le sortir, il faut que les gens puissent l'écouter sur des plateformes. Donc il va falloir le distribuer. Donc on peut faire appel à des distributeurs pour ça. Maintenant c'est assez simple. Ton album, toi, il sera disponible sur quelle plateforme?
Mon album sera disponible normalement sur toutes les plateformes les plus connues, que je connais moi en tout cas, Deezer, Spotify, YouTube, c'est une plateforme aussi j'imagine,
oui,
YouTube. Ouais, voilà.
Ok, c'est quelqu'un du coup qui s'occupe de la distribution? contribution ?
C'est moi. Oui, non, enfin, ce serait. Je m'y connais pas trop, je suis pas encore à ce truc-là, j'ai fait que quelques recherches, mais oui, j'ai trouvé une plateforme, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, mais un site qui fait ça sur internet et tu payes en une fois et voilà, quoi. Ça a pas l'air très compliqué.
Et à l'inverse, est-ce que tu as prévu une sortie physique ? Un CD avec une pochette, un objet, oui. Un bel objet.
Oui, j'ai prévu un bel objet. Ouais, je me suis dit que c'était, enfin, encore dans cette intention de le mettre dans une boîte, quoi. Que j'avais envie d'avoir dans les mains quelque chose que j'ai créé, de pouvoir le voir, le toucher, le distribuer, le donner. Donc, oui, il y aura pas mal d'exemplaires en CD avec une pochette. Oui, alors du coup, il faudra le commander sur Lola qui doute, m'envoyer un message. Pour l'instant, je vais le faire comme ça. C'est comme ça que je l'ai réfléchi et voilà. Il faudra m'envoyer. D'ailleurs, je vais mettre un post bientôt pour peut-être précommander ou juste m'informer pour que je sache un peu combien d'exemplaires il faudrait que je fasse aller à l'impression et voilà.
Donc voilà, la boucle est bouclée, je pense, pour comment faire un son d'une idée jusqu'à un CD. Merci Lola de nous avoir détaillé un peu ça. On va passer une version live d'un son que tu as choisi, je crois.
Et donc, je l'avais un peu introduit tout à l'heure, mais j'ai envie d'interpréter une chanson que j'ai écrite récemment, parce que j'aime aussi faire le retour sur le présent, et j'ai parlé beaucoup des choses que j'ai vécues avant, et que maintenant j'ai envie de m'implanter là, maintenant, et... ça me touche parce que c'est une chanson qui parle de l'amour que j'ai pour mon amoureux Léon, qui est l'accordéoniste dont on a parlé tout à l'heure. Et ça a été un grand chemin pour moi de ne plus vivre dans cette espèce de passé avec les regrets et de voir aussi ce que j'ai pas raté en fait.
Je ne m'en lasse pas. Et le
sur Catalyse, Fréquence Mistral. Merci Lola pour cette interprétation.
Avec plaisir.
C'est vraiment très joli. Thibaut, ce serait pas l'heure de l'agenda, de savoir ce qu'on va faire sur les 2-3 semaines à venir là ?
Alors, comme toujours, hein, c'est une sélection d'événements musicaux dans le coin. Donc, pour le mois de novembre, vous avez le samedi 26 à partir de 20h, une soirée privée au Studio 57 par notre ami Jérôme, qui animait Kilowatt FM. Soirée sous les auspices de la musique électronique.
Ah tiens.
Alors, c'est pas forcément tout à fait ma culture, mais voilà, je sais qu'il y a eu une soirée qui s'est déroulée au Café du Midi, sur laquelle j'ai eu des super retours. Donc voilà, si vous voulez retrouver DJ Rar-G, et pas Gérard, vous pourrez le retrouver donc le 26 novembre. Pour ça, vous pouvez chercher la page Facebook Bunk Air Studio, sur laquelle il faut justement les contacter pour cette soirée privée. Et puis après, je me suis concentré vraiment sur un week-end qui va être assez chargé, le premier week-end de décembre.
Ah oui.
Avec une soirée de soutien à l'association Atelier Partagé, qui vient d'acquérir de nouveaux locaux pour une ressourcerie. Donc le 2 décembre, à partir de 18h30, vous allez avoir droit à des petits mets préparés par les bénévoles pour soutenir l'association, mais aussi l'avenue du groupe lycéen Eclipse, que j'ai la joie d'encadrer au sein du lycée Pierre Gilles de Gênes, et l'avenue aussi d'un collectif le Splendigne, dont je fais partie. Moment autopromotion.
Ça en vaut le détour, ça en vaut le détour.
On verra bien. Et surtout, juste après, à partir de 20h30 environ, il y aura une jam session. Donc, tous les musiciens sont conviés. Et puis, on va juste, voilà, juste se faire du bien et partager un moment sympa. Et puis, le lendemain, il y a donc au Palais des Congrès, donc la soirée Presque au Point, une soirée organisée avec l'association Cœur Lavande pour le Téléthon. Donc les Presque au Point, ça fait déjà au moins 15 ans qui chaque année nous propose un spectacle qui travaille toute l'année, un spectacle qui raconte une histoire et pendant laquelle ils font des reprises, et c'est vraiment toujours empreint d'humour, et c'est vraiment un pur moment de bonheur. Donc deux représentations à 15h et à 21h. Donc je vous conseille d'aller à celle de 15h puisque le même jour, à 20h30, il y a au Centre culturel René Char le groupe Barut. Ce sont des polyphonies occitanes accompagnées de percussions, puis des grosses percussions. J'aime beaucoup ça. donc voilà, à pas louper. Et puis, dernier petit rendez-vous, toujours pour ce week-end de décembre, donc le 4 décembre, à partir de 15h, alors quelque chose d'un peu particulier qui sort un petit peu du cadre musical, mais une représentation de théâtre chez l'habitant. C'est Les Murmures de l'eau, préparé par la compagnie Bulle de Zin. En fait, c'est un artiste qui fait un tour de France en stop, donc il l'a déjà fait l'année dernière, et puis cette année il s'arrête à Thoire, et puis donc le lendemain sur Digne. Donc vous pouvez retrouver ça, c'est l'association La Chamade qui s'occupe du spectacle vivant sur Digne, qui propose ça. Donc pareil, vous retrouvez sur leur Facebook de quoi les contacter pour réserver votre place.
Ben merci Thibault, c'est comment occuper nos deux week-ends du coup.
Oui, tout à fait.
Pour ma part, ce sera peut-être samedi soir. Le samedi, tu m'as dit quel jour pour le Studio 57?
Samedi 26.
C'est le 26, d'accord. On pourra peut-être s'y retrouver alors. Lola, on te laisse le mot de la fin. Est-ce qu'il y a des gens que tu veux remercier? Qu'est-ce que tu veux nous dire? L'antenne, elle est à toi.
Merci de m'avoir invité. Il y a tellement de choses que j'aurais envie de partager, mais j'ai pas préparé là. Le truc sur la paix dans le monde et tout ça, mais voilà.
Merci à toi d'être venu, de nous avoir fait confiance surtout. C'était un peu, comment dire, un contexte particulier aujourd'hui. Et merci pour ton partage surtout. Et voilà. Et moi, je vais vous laisser sur un titre de Gorillaz qui s'appelle Rhinestone Eyes et qui symbolise bien, je trouve, le partage et les émotions. Donc, on se retrouve dans quelques temps sur Fréquence Mistral.
Dans quelques temps avec, normalement, la venue de Canto Sauvage.
Exactement.
Encore un groupe local qui est en train d'enregistrer son premier album à la MJC de Manosque.
Et on a déjà hâte.
Tout à fait.
On se quitte ici. Bonne fin de soirée à tout le monde. Au revoir.
Bye bye.
I'm a scary gargoyle on a tower that you made with plastic power. Your rhinestone eyes are like factories far away. Where the paralytic dreams that we all seem to keep drive on engines till they weep. With future pixels in factories far away. So call the mainland from the beach. Your pod is now washed up in bleach. The waves are rising for this time of year. And nobody knows what to do with the heat. Under sunshine pylons we'll meet while rain is falling like grindstones from the sky. My lungs, nature's corrupted, in fact, is far away.